tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. L'action se passe à Griffintown, à Montréal, plus précisément à l'intersection des rues William et Princess, ou Princesse si vous voulez. Donc, je vous l'avais dit un peu plus tôt dans mes balados que j'essaie toujours de situer premièrement les scènes de crime. Donc, ça commence à être assez précis ici. On a même une intersection avec les noms des deux rues. Donc, ce soir, la victime de notre affaire non élucidée s'appelait James Finnell. Et on commence l'histoire au moment où le crime a déjà été commis. Donc, l'enquête, les jurés du coroner, donc je ne sais pas si vous saviez, mais les enquêtes de coroner à ce moment-là avaient quelques jurés. C'était comme un mini-procès, si on veut. Les jurés qui accompagnaient le coroner, ils écoutaient la preuve et tout ça, et c'est eux qui confirmaient à la fin le verdict. Donc, si quelqu'un était tenu criminellement responsable, ou sinon, si c'était un simple suicide ou quelque chose comme ça. Alors, les jurés du coroner se sont rendus dans la maison où se trouvait encore le cadavre de la victime, donc M. Finnell. Mais à leur arrivée, cependant, ils ont été reçus par au moins un homme armé et d'autres qui ont démontré leur haine envers leur travail. Donc, ils n'étaient pas d'accord avec leur tâche, dans le fond, leur fonction. Qu'ils avaient à faire, mais vous comprenez, aujourd'hui, je pense qu'on comprend un peu mieux ce qu'est le travail du coroner. Il n'a plus de juré pour l'accompagner, mais le travail est quand même assez important. C'est un peu le débroussailleur, surtout à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enquête policière, de scène de crime dite policière. Encore moins d'équipe d'identité judiciaire. Quand je dis identité judiciaire, si vous le savez ou pas, mais c'est l'équipe généralement qui s'occupe de la scène de crime, donc tout ce qui est prise d'empreinte, tout ça, bref. Et aujourd'hui, il y a même une autre sorte d'équipe, là, c'est plus scientifique et tout ça, donc tout ça n'existait pas à cette époque-là. Donc le travail du coroner était doublement important, parce que c'est lui qui enregistrait les faits, qui laissait une trace dans l'histoire de ce qui s'était passé. Et on dit même que le maire de Montréal de l'époque, Joseph Bourret, était présent là, quand ça s'est passé dans ce genre d'échauffourée-là. Et malheureusement, il n'a rien pu faire pour calmer les esprits. Il y a même trois membres du jury qui ont dû quitter les lieux par crainte de représailles. Donc, c'était sérieux. Là. S'ils ont quitté, c'est parce que les menaces étaient quand même assez sérieuses. Bon, après ce genre de brouhaha, si on peut dire, on a commencé tranquillement à écouter les témoins sous serment. Donc, l'enquête a pu commencer. L'un des témoins, qui s'appelait Patrick Brennan, il a raconté qu'il se trouvait chez lui. Donc, à l'intersection, il habitait, lui, à l'intersection des rues William et Princess, dans Griffintown, et qu'il a entendu un coup de feu. Lorsqu'il est descendu dans la rue, il a entendu trois ou quatre hurlements. Et c'est alors qu'il a vu un dénommé Colburn. On va apprendre que son nom, c'est Charles Colburn, qui se relevait pour prendre la fuite en courant. Donc, il avait de l'air pas mal coupable, mais il avait juste peut-être l'air aussi. Donc, c'est pas parce qu'il l'a pas vu en train de tuer James Finnell, mais il l'a vu en train de se relever et de prendre la fuite. Pour sa part, le fils de Brennan dit qu'il s'est approché du blessé, donc de Finnell, et que ce dernier l'a empoigné par le collet pour lui dire, et j'ouvre les guillemets, « Oh, Brennan, je suis un homme mort! » Et je ferme les guillemets. Pendant ce temps, Colburn, lui, s'enfermait, donc a pris la fuite. Probablement qu'il se sentait un petit peu visé, là, que tout le monde l'ait vu à côté du corps très peu de temps après le coup de feu. Donc, il s'est réfugié chez lui, puis il s'est enfermé dans la maison des Brennan pour s'y barricader. Alors voilà, on a déjà vu, on voit ça un petit peu moins, mais il y a des genres de prises d'otages ou des états de siège, comme on dit. par des criminels là, qui s'enfermaient soit avec des otages ou soit tout seul pour on ne sait pas quelle raison, pour essayer d'échapper à la justice. Mais souvent, ces états de siège-là finissent soit très mal ou en queue de poisson parce que, bon, le criminel en question ou le suspect est obligé de se rendre. Mais ici, c'est même pas un criminel, c'est juste un suspect qui se sentait probablement très, très, très suspect. Et selon un autre témoin qu'on a entendu à l'enquête du coroner, on dit que Colburn, ce serait un accident parce il aurait trébuché sur quelque chose, il serait tombé dans la rue et le coup de feu serait parti accidentellement. C'est pour ça qu'il peut-être, je dis bien peut-être, il s'est penché après pour aller voir comment allait la victime et qu'il regrettait peut-être. Évidemment, le fait de. Parce qu'on dit souvent que les évadés, quand quelqu'un s'évade, ça prouve qu'il était coupable, mais moi, je suis pas prêt à dire ça à 100%. Faut comprendre aussi comme un délit de fuite. Il y en a qui prennent la fuite juste par panique. Alors, est-ce qu'il s'est réfugié juste par panique chez lui? De toute façon, il devait savoir inconsciemment qu'il s'en allait vers un impasse. Et il a fallu qu'il se rende tôt ou tard. Ce qui est assez rare dans ces affaires-là, c'est que le jury du coroner n'est pas arrivé à s'entendre sur un verdict unanime. Et non, il y en a qui disaient que, la moitié disait que Colburn était un meurtrier. Et l'autre moitié disait que c'était un accident. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'enquête de coroner n'a pas pu aboutir de façon unanime, donc c'est déjà un point. Et l'accusation de meurtre contre Colburn, elle a duré un certain temps, mais en février 1845, elle a été abandonnée tout simplement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait de preuves, peut-être que la situation. Autrement dit, on avait vu Colburn près de la victime, mais sans plus. Est-ce que ça prouvait nécessairement qu'il était le meurtrier ou qu'il avait eu même l'intention de le tuer? Parce que si c'est un accident, bien automatiquement, au mieux, on aurait pu l'accuser d'homicide involontaire, mais à cette époque-là, c'était pas encore très populaire, quoique la notion de manslaughter existait déjà. Mais voilà. Alors, l'homicide de James Fennell par arme à feu est resté non élucidé, et c'est pour ça que je l'ai classé dans la catégorie des homicides à motif indéterminé.